dispositif dans lequel il y avait le mot nuage, et pas le mot cloud peut-être, je pense. Et la loi Toubon a dû le réjouir. Alors, je me plie à la volonté des organisateurs. Est-ce qu'il y a une partie réservée à la discussion dès maintenant, ou est-ce que c'est renvoyé à la période d'après ? Oui, mais courte, c'est ça. Donc, je laisse la parole à qui veut la prendre. Est-ce que quelqu'un veut intervenir sur ces... Alors, peut-être des interventions relativement courtes et ciblées, parce que sinon, on va dépasser le temps imparti. Il y a déjà une question là. Après, il y a une question là. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène ? Non, bah, je vais
parler directement.
Bah, oui, ça s'entend. Ah non, c'est enregistré, donc il faut que le micro...
Oui, je voudrais savoir concernant votre intervention sur les logiciels libres, vous avez relativement peu parlé des forges et on va dire de leur existence à un niveau national ou européen. Et je voudrais aussi vous poser la question concernant l'association des développeurs utilisateurs de logiciels libres dans les administrations et les collectivités territoriales. Est-ce un acteur sur lequel la puissance publique peut s'appuyer aujourd'hui? Et enfin, avez-vous noté une forme d'abandon du logiciel libre par les collectivités territoriales ces derniers temps au profit d'un certain nombre de démarches qui vont vers la confidentialité et le format propriétaire?
Oui, merci pour la question. Sur les forges, j'ai pas abordé le sujet, effectivement. En France, il y avait deux forges publiques renommées, qui étaient la forge de la Duglacte Géforge et la forge de l'administration Admiforge. Les deux ont été combinés. Maintenant, tout est géré par la forge de la Duglacte. Donc, j'en viens au deuxième point, la Duglacte. Donc, c'est l'association... J'ai plus le... Voilà, l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les administrations et collectivités territoriales. Il y avait le logo dans l'une de mes slides, mais que j'ai passé rapidement. Oui, je pense que c'est effectivement une initiative. Alors, l'objectif de la Duglacte, c'est une association qui permet aux différents adhérents, membres, de faire converger leurs besoins pour ensuite faire appel à un fournisseur unique pour le développement du besoin en question. Par exemple, on a eu des logiciels pour la gestion de cimetières, on a eu des... Voilà, c'est des besoins qui sont communs à toutes les collectivités, mais qui ont été développés sur ce principe-là. Je pense qu'effectivement, c'est une très bonne base. En tout cas, c'est une association qui existe depuis relativement longtemps. Après, François Hilly pourra en dire beaucoup plus que moi, donc le président de la Duglacte. À l'échelle européenne, on a aussi l'ancienne forge de Hosor, qui maintenant est sur le... alors c'est Join Up. Donc ça a bougé, en fait. À l'échelle européenne, il y a eu beaucoup de projets en faveur du logiciel libre. D'ailleurs, il y a un rapport Mérite qui explique l'intérêt qu'a l'Europe de mettre en avant l'open source dans ses propres développements et même dans son industrie. Et donc il y a une métaforge, en fait. Donc il y a une forge européenne qui permet d'aller chercher dans les différentes forges nationales les projets de collectivités ou d'administration pour les réunir et permettre de mutualiser à l'échelle européenne. Donc maintenant c'est géré par ISA, le programme ISA. Avant c'était IDABC. Voilà pour l'aspect forge. Dernière question était... Ah oui, l'abandon. Je pense que vous pensez à l'Assemblée nationale. Pas forcément. Donc on a notamment l'Assemblée nationale qui avait ses postes sous Linux et qui remet en question pour, là prochainement, savoir s'ils conserveront ou pas des logiciels libres sur leur propre poste de travail. Est-ce qu'il y a un abandon? Je ne sais pas. Alors il y a une remise en question, effectivement. Non, je ne crois pas qu'il y ait d'abandon. Il me semble juste qu'il manque une stratégie commune à l'échelle nationale. Et juste une dernière remarque sur le sujet, c'est quelque chose, et j'anticipe sur la journée, sur la matinée de demain, qui me semble aussi manquer dans le domaine de l'open data. Mais...
Juste pour compléter, Imégalis Bretagne est membre de la Duglacte et peut-être bientôt du conseil d'administration. Donc en fait, nous, on s'appuie sur la Duglacte de différentes manières. Parfois, on contribue financièrement au développement de logiciels libres dès lors que ça intéresse les collectivités qu'on représente. On mène un certain nombre d'expérimentations avec la Duglacte pour pousser des logiciels libres, des logiciels métiers au sein des collectivités. Par contre, par la suite, dès lors qu'on veut les acquérir, on est soumis au code des marchés publics. On doit trouver un intégrateur pour pouvoir intégrer le logiciel et ensuite le maintenir. Et donc il y a cette problématique d'intégration des logiciels libres qui est quand même une problématique importante. On a peu d'intégrateurs en région qui sont capables de les intégrer. Donc on essaye de créer une dynamique autour de cette problématique-là. Et l'autre problématique, c'est la logique des forks, en fait. Souvent, donc on spécifie clairement quel logiciel on veut dans le marché public, on cite la source, et en fait, on se rend compte que la source qu'on cite, en fait, elle a fait l'objet d'évolutions entre-temps, qu'il y a des versions supérieures qui ont été mises en place, et du coup, en fait, la logique initiale du logiciel libre tombe, et il est très très compliqué de pouvoir travailler de cette manière. Là. Et c'est vrai que pour bénéficier en fait d'une mise en concurrence plus importante, on voudrait pouvoir s'appuyer là-dessus et considérer que le logiciel qu'on a retenu, on veut continuer à l'avoir, mais que ce soit éventuellement quelqu'un d'autre qui l'intègre et le maintienne. Et souvent, en fait, c'est impossible parce que la version elle a évolué entre-temps. Et il y a peut-être pas eu de contentieux, mais en tout cas, il y a eu un recours sur ce sujet-là il n'y a pas très longtemps. Notamment pour ce qui concerne la solution qu'on avait retenue nous pour les marchés publics. Donc ça, c'est un sujet quand même assez important pour les collectivités territoriales qui sont sensibles au logiciel libre et toujours autant qu'avant.
Je vous remercie d'avoir participé à ce colloque, mais j'aimerais avoir deux petites questions. Je m'adresse aux intervenants aussi bien celui des licences libres qu'au cloud. Vous me pardonnerez si jamais mon langage est un petit peu fait preuve du fait que je suis nouveau sur le marché, mais j'ai l'impression que dans le langage qu'on utilise, on ne fait pas la distinction entre la licence libre et la licence ouverte, parce que justement il y a des soucis. J'avais entendu parler justement de soucis où, dans la mesure où certaines collectivités avaient utilisé des programmes justement sous licence libre, croyant être sous licence ouverte, et justement ne pouvaient pas utiliser justement ces programmes alors qu'ils étaient en licence libre justement. Et pour ce qui est du cloud, j'ai l'impression que vous présentez les choses comme une cassure dans cette logique de repenser toute une architecture. Donc j'aimerais savoir si le cloud va pouvoir se concilier avec tout ce qui concerne les PSSI, parce que visiblement comment va s'intégrer le cloud dans les PSSI qui justement ont tendance à être à verrouiller, à mettre des habilitations, etc., etc. Voilà. Je vous remercie pour vos réponses.
Oui, merci. Alors, juste sur la question licence libre, licence ouverte. Vous pensez quand vous dites licence ouverte à licence open source ou c'est encore autre chose? Parce que, alors, je l'ai pas abordé en fait avec précision, mais on a une définition pour ce qu'est le logiciel libre, qui est axé sur le logiciel, pas sur la licence. On en déduit quelles sont les libertés quels sont les droits et obligations que doit contenir la licence pour assurer que le logiciel est effectivement libre. Et après, on a une définition qui s'appelle l'open source définition, qui décrit le contenu d'une licence, ce qu'une licence doit contenir pour être dite open source. Et ensuite, il y a tout un processus de qualification qui permet à l'Open Source Initiative d'identifier sur son site les licences qui ont été certifiées open source. Sur cette base, on peut savoir quelles sont les licences libres. En tout cas, on peut très bien dire, sur la base de la liste de l'Open Source Initiative, voilà, nous, on veut que des licences qui sont utilisées sur l'Open Source Initiative. Le problème, c'est que, d'une part, ces deux initiatives sont américaines. Alors, c'est pas, je fais pas... Bon, c'est pas tant vis-à-vis de la langue française ou même si je comprends tout à fait les arguments, mais c'est juste que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas du tout. Et par ailleurs, par exemple, la licence Cécile que j'ai tout à l'heure évoquée n'est pas sur le site de l'Open Source Initiative parce que les personnes qui sont derrière la licence n'ont jamais pris le temps, surtout, en tout cas, elles n'ont jamais eu le temps, de passer le test de certification. Donc, si une administration demandait à n'avoir que des logiciels soumis à des licences présents sur le site de l'Open Source Initiative, ils excluraient automatiquement toutes les licences de type Cécile, qui sont pourtant des licences rédigées sur le fondement, en tout cas pour le droit français. D'où la difficulté, en fait, dans un marché à identifier, ou en tout cas à préciser quelles sont les licences attendues, surtout que ça dépendra de la solution finale et des composants libres open source utilisés dans la solution. D'où la nécessité d'une nomenclature. Il faudrait vraiment, je pense, faire un travail de normalisation. Quels sont les droits et obligations, comment fonctionne une licence et quelle licence répond à quels critères. Ça, c'est un travail qu'on pourrait faire à l'échelle européenne. Et je crois que c'est tout. Après, il y a effectivement des logiciels qui se disent libres, qui se disent ouverts, qui se disent gratuits. Oui, mais les licences ne répondent pas à ces définitions. Donc c'est juste en faisant le travail de qualification en amont qu'on évite ce type de désagrément.
Alors, derrière votre question, se pose une question qui est très traditionnelle dans les systèmes d'information. Il n'y a pas plus ou moins de problématiques de sécurité de PSSI et de RGS dans le cloud que dans d'autres structures. Quand vous êtes aujourd'hui dans une structure centralisée, parce que vous avez votre salle machine ici, mais qu'en même temps vous êtes à l'autre bout du monde et que vous voulez accéder à des données, vous transitez sur un réseau. Est-ce que la donnée qui transite n'est pas piratée? Quel est son niveau de classification? Est-ce qu'elle doit être sécurisée, etc. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ça serait un sujet technique assez long, mais je vais essayer de le résumer de manière simple. Aujourd'hui, le cloud change un peu les architectures techniques à l'intérieur des gens qui délivrent ce type de service parce que on a des outils un peu différents. On a des logiques de refacturation avec des systèmes complètement intégrés et puis des systèmes de provisioning de ressources et d'allocation dynamique de ressources. Je suis un utilisateur, je veux une ressource, je dois pouvoir sur mon poste de travail appuyer sur le bouton sans faire une commande en 5 exemplaires aux informaticiens. Donc c'est en ce sens l'architecture change. Les questions de sécurité restent les mêmes. Elles sont dans des salles machines, sur des serveurs, sur des logiciels qui doivent avoir un niveau de qualification, sur des réseaux qui doivent eux-mêmes obéir à un certain nombre de règles. Donc, j'allais dire que, cloud ou pas cloud, la PSSI, le RGS, s'applique à l'ensemble de ces éléments. Mais il s'applique de la même manière que quand on fait du développement logiciel. Est-ce qu'un développement logiciel requiert que les données soient qualifiées, j'allais dire diffusion restreinte, confidentielle défense, secret défense ou pas ? Donc le cloud ne change rien sur ces sujets-là. La vraie problématique du cloud, et c'est ce qui fait peur aux gens et ce qui est parfaitement compréhensible, c'est pas tellement le fait que tel ou tel service de cloud ait été sécurisé, c'est que je ne sais pas où sont mes données. Je prends un service de cloud chez Google, Google va vous dire « Ok, je sais pas où, dans la Silicon Valley ou... » Mais à un moment donné, effectivement le principe du cloud, c'est que si massivement les structures du cloud Google aux États-Unis sont complètement saturées, le principe du cloud, c'est qu'ils vont aller chercher des ressources à l'instant T ailleurs. La question, c'est où ? Et à ce moment-là, ils vont vous faire transiter vos données ailleurs, en Inde, en Asie, Madagascar, je ne sais pas où. Les Américains sont extrêmement sensibles à ça compte tenu du Patriot Act, et c'est une des vraies questions. Mais on peut très bien avoir des données complètement sécurisées, dans des systèmes fermés, protégés. Le problème, c'est que on ne sait pas à un instant T où sont ces données, on ne sait pas s'il n'y a pas quelqu'un qui, à un moment donné, va pouvoir les capter et en faire une exploitation abusive ou frauduleuse, voire diffuser des secrets, ce qui est un des problèmes, d'ailleurs, sur la question de la protection du patrimoine scientifique et technique de l'État. Vous voyez, c'est pas le problème de pouvoir rentrer ou pas rentrer dans le système avec des mots de passe plus ou moins sécurisés et des systèmes de cryptage élaborés. C'est le fait qu'à un moment donné, ma donnée, elle transite, elle passe quelque part et elle passe à un endroit, peut-être, où on n'a pas envie qu'elle transite. Dans les discussions, j'en aurais terminé là, dans les discussions au sein du SGDSN et dans le rapport qui figure, dans les éléments qui seront remis dans le rapport au Premier ministre, il y a du cloud computing avec des partenaires européens et non européens. On identifie clairement, en tout cas les gens qui sont dans le domaine de la sécurité identifient clairement qui pourrait être un partenaire cloud computing, nuage de la France, et qui ne peut pas l'être. Donc vous voyez, le sujet, c'est pas tellement de dire on sécurise ou on sécurise pas, c'est un partenaire de confiance, plus qu'un problème de sécurisation, de remise en cause des outils de sécurité. Voilà, j'espère que j'ai été clair.
Les organisateurs me demandent d'interrompre la séance de questions parce que sinon nous allons entamer le temps de la prochaine table ronde. Ce que je vous propose, c'est qu'il y aura sans doute un temps pour l'échange après la prochaine table ronde et donc de reposer les questions qui pourront l'être à ce moment-là. D'accord.
Je souhaite remercier tous les intervenants pour leur contribution.